Chers auditeurs, voilà, bonsoir. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission avec notre ami Alain Pascal, historien et philosophe et aussi quand même théologien, il faut bien le dire, à 16 heures. Hein. Parcours tout à fait atypique. Nous avons commencé hier à parler avec lui d'un ouvrage qui a été publié il y a quelques années, pas très longtemps,
il est récent,
pour une révision totale de l'histoire. Alors je rappelle la phrase célèbre de Napoléon Ier, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Même si on peut critiquer Napoléon Ier, comme l'a montré hier Alain Pascal. Néanmoins, ce personnage historique qui était souvent perspicace, c'est le moins qu'on puisse dire, intelligent, et il avait parfaitement compris que l'histoire était très souvent utilisée pour donner une image convenable aux différents peuples et qui est un instrument bien souvent de propagande. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors, nous avons décidé de parler aujourd'hui d'un autre ouvrage plus récent encore d'Alain Pascal, La crise sacrificielle du monde moderne. Alors ce soir, c'est moi qui lirai les questions parce que tous les gens qui devaient venir m'aider m'ont fait faux bond. Ma femme m'a dit, comme ton assistant vient, c'est pas la peine que je vienne. Et comme mon assistant m'a dit, comme votre femme vient, c'est pas la peine que je vienne. Et j'ai appris ça il y a une demi-heure. Et en plus, j'étais bloqué dans le train et je suis arrivé en retard. Parce qu'il y a des alertes aux attentats, apparemment à cause du 1er mai. Je sais pas ce qui se passe encore. Bon, enfin voilà. Alors, la crise sacrificielle du monde moderne, hommage à René Girard, oui, parce que la crise du monde moderne, c'est le titre d'un ouvrage célèbre de René Guénon, publié en 1927, qui est absolument génial d'ailleurs, qui est prophétique. La notion de sacrifice est empruntée à René Girard, La violence et le sacré, La route antique des hommes pervers, vous voyez, c'est ce titre effectivement que je cherchais hier. Je vois Satan tomber comme un éclair, de certaines choses cachées depuis le début
des
du monde.
Des choses cachées depuis la fondation.
Et donc René Girard est un très grand philosophe français, sociologue aussi, qui a été obligé pour faire carrière d'émigrer aux États-Unis parce qu'on ne lui donnait pas la possibilité de s'exprimer ni de faire carrière en France, dans la mesure où il n'était ni marxiste ni freudien.
Absolument.
Et que c'est ce que vous-même qu'il avait dit dans cette excellente émission de Mike Borowski sur Géopolitique profonde, que j'invite nos auditeurs à écouter, puisqu'elle est sur YouTube. Hein. Elle est extrêmement intéressante, elle dure 1h30. Alain Pascal développe ses idées qui sont tout à fait pertinentes. Alors, et bien sûr, étant protestant, j'ai été parfois un peu contrarié, on va dire, de par certains propos un peu durs. Alors c'est vrai que quand je regarde dans son livre, pour une histoire, révision totale de l'histoire, je vois ce qu'a fait Jean Calvin. Bon, je me demande si vraiment il est opportun d'être calviniste. Luther me semble quand même plus sympathique. Bon,
Calvin, on peut en reparler. Je vais commencer par dire amis croisés, bonsoir.
Je vais mettre les
protestants dans les croisés, si vous voulez bien.
On défend quand même le Christ.
Voilà.
Quand même.
L'erreur théologique, mais...
C'est globalement positif.
Et on voit que, comment on peut dire, même si ça a été une catastrophe historique, de mon point de vue, on peut le développer, aujourd'hui, il y a une prise de conscience chrétienne, y compris par des sectes évangéliques, qui sont vraiment très très loin du dogme, mais qui ont quand même une prise de conscience chrétienne. Oui. Donc, malgré tout, malgré les erreurs, tout le monde peut avoir une utilité pour sauver le christianisme, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Il s'agit de sauver le christianisme.
Et sauver le christianisme.
Et la civilisation chrétienne.
Et c'est ça. C'est que, comme le dit Orwell, sauver le christianisme, c'est pas simplement sauver les âmes. Ça, dans le vrai génie, dans le génie du christianisme, Chateaubriand l'a montré. Mais c'est sauver aussi la civilisation, parce qu'Orwell dit, sans l'effet libérateur et émancipateur du christianisme, l'humanité serait toujours dans un état de sous-développement et de misère endémique.
Absolument.
Car aucune des réalisations techniques dont on s'enorgueillit à juste titre, ces ordinateurs, ces machines extraordinaires qui nous entourent, cet allongement de la durée humaine aussi, rien de tout cela n'eût été possible, nous serions restés dans des sociétés durablement cruelles et sous-développées, où l'esclavage et les sacrifices humains étaient monnaie courante, il ne faut pas l'oublier, parce que le travail, la force de travail des esclaves n'en rendait pas utile l'utilisation des machines. Les inventeurs, c'est Orwell qui raconte qu'on a présenté à l'empereur Tibère un inventeur génial qui avait inventé un verre incassable. La première chose que Tibère a fait, refuser, c'est de le faire crucifier parce que ça risquait de compromettre le commerce des marchands de verre. Donc c'était un système extrêmement rigide, cruel, et rappelez-vous ce mot d'un consul, je ne sais plus lequel, tout changement est un mal en soi. Donc évidemment, ça ne devrait pas changer beaucoup à cette époque.
Ça, c'est une donnée des traditions, d'une façon générale.
Ah là, oui.
Ça n'est pas nécessairement mauvais, c'est-à-dire qu'un le changement perpétuel auquel nous assistons est aussi un mal en soi.
Ah bah c'est une évidence.
L'Antiquité païenne se méfiait du changement. Dans les traditions très anciennes, il fallait vraiment que la nouveauté soit expérimentée, alors qu'aujourd'hui on se jette sur ce qui semble nouveau et qui en fait ne l'est pas.
Alors très souvent, les changements n'apportent aucun progrès à notre époque.
Mais c'est même le pire. On va
chaque fois. Et moi, je ne sais pas si, chers auditeurs, vous utilisez des moyens techniques, et ça, je suppose que oui. Mais vous reconnaîtrez que rien que pour une charger une batterie de voiture, parce que tout à l'heure on sera obligé de parler un peu d'automobile de collection pour une raison d'une saisine du Conseil constitutionnel, donc vers 20h20, j'ai obligé d'intervenir au téléphone avec un spécialiste de la matière. Vous voulez charger une batterie. Avant, vous avez un chargeur qui est un transformateur. Vous branchez les bornes sur la batterie. Vous mettez la prise dans le secteur, ça charge. Au bout de 15 heures, vous coupez, c'est chargé, c'est bon. Maintenant, ça n'existe plus, ces trucs-là. Vous avez des chargeurs dits intelligents. Alors, le chargeur intelligent, alors je ne sais pas s'il prend le pouls du patient ou s'il détecte les fluctuations de la batterie. Quoi qu'il en soit, il fait ce qu'il veut et il n'en fait qu'à sa tête. De telle sorte que, de temps en temps, il charge bien la batterie. De temps en temps, il ne veut pas du tout la charger. De temps en temps, il commence à la charger, et puis il change d'avis, il arrête tout. Il fait que vous vous retrouvez en panne. Alors, je dis, bon, moi, je ne veux plus de chargeur intelligent, j'ai besoin d'un chargeur non intelligent, bête, qui fait ce que je veux. Ah ben non, monsieur, vous comprenez, ça n'existe plus pour des raisons de sécurité. Parce que vous comprenez, on aurait pu le laisser trop longtemps branché, alors là, ça aurait pu mettre le feu. Oui, alors là, évidemment, ça, vous savez, c'est toujours la même chose.
Voilà, le progrès scientifique n'est valable que si l'homme contrôle, et donc voilà, déjà la machine, et en plus si c'est au service du bien, et que malheureusement il est aujourd'hui placé au service du mal.
Et l'homme ne le contrôle plus en plus.
Ne le contrôle plus, et c'est un... Alors, on va beaucoup parler de Girard, hein, parce que je voudrais vraiment lui rendre hommage, mais ça fait partie de sa démarche intellectuelle, de s'être inquiété du progrès scientifique, et c'était avant nos piqûres obligatoires, puisqu'il est mort en 2015. Alors Girard, il est né en 1924, il est mort en 2015, et son centenaire en 2024, on ne peut pas dire qu'il ait été très célébré, alors que c'est, de mon point de vue, le plus grand penseur français de la deuxième moitié du XXe siècle. Ouais. Ma génération, puisque je ne suis plus trop jeune, a été obligée de subir les Sartre, les Althusser, les Simone de Beauvoir, en fait, toutes ces racailles, hein, excusez-moi du terme,
oui,
intellectuelles,
tous ces gens qui sont moralement de mort, de suicide,
ce qu'on appelle l'absurde philosophique. Oui, oui. Quand on perd le christianisme, la vie devient absurde. L'aboutissement de la philosophie moderne, c'est l'absurde. Quand j'ai parlé de l'échec moderne et du vice fondamental du cartésianisme, qui est de substituer une fausse raison à la vraie, on en a la preuve, puisque deux siècles après, avec l'existentialisme athée du XXe siècle, la philosophie a conclu à l'absurde. Et qu'aujourd'hui, le gauchisme est lui-même absurde. C'est un irrationalisme. Au nom de la raison, on a abouti à un irrationalisme.
C'est juste. D'ailleurs, vous remarquez que ces gens-là adorent la mort. Ils adorent l'avortement, ils adorent l'euthanasie, ils adorent toutes les formes d'union qui ne permettent pas de procréer.
Parce qu'ils veulent substituer à l'humanité créée par Dieu une humanité soi-disant nouvelle, transformée, et qui serait en plus libérée du christianisme, évidemment, puisque dont l'âme, en fait, sera donnée, elle est déjà malheureusement très sous sa coupe, au diable. L'opposé, c'est le diable.
Oui.
On va parler de Girard. J'ai parlé hier des gens qui faisaient partie de mon parcours, de Kaiserling et de Girard. Girard, je l'ai lu il y a aussi une quarantaine d'années, donc je répète, mais j'écris depuis 30 ans. Mon premier livre était sorti il y a 30 ans. J'avais commencé avec Beckett ici. Et donc là, j'ai 15 livres depuis. Donc, vous savez, on en a parlé d'hier, mais j'ai été avocat. Mais en fait, si j'écris, c'est pour ne pas parler. Alors, je vous remercie beaucoup de cette invitation sur une radio. Mais l'écriture est autre chose. La parole s'envole, l'écriture, elle reste. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que je vais vous dire, je suis très content d'avoir consacré ces 30 années à l'écriture. Un livre, ça m'a pris à peu près 2 ans, donc j'ai 15 livres et eux, ils resteront. Et Girard fait partie de mon parcours et Girard a transformé ma méthode de pensée. Et je pense que certains de mes lecteurs me l'ont dit, parce que j'ai des lecteurs très fidèles qui ont tous mes livres. Donc ça aussi, je voulais les remercier.
Ah oui,
alors
oui.
C'est important pour moi, parce que ça me fait très plaisir.
Les amis d'Alain Pascal.
Les amis d'Alain Pascal. Oui. Et en plus, c'est nécessaire d'acheter des livres, pardon si c'est commercial, mais pour que les maisons d'édition vivent et pour que nos idées tournent. Parce que sinon, il ne se passe plus rien. Donc les livres existent, les livres resteront. Et ça, c'est très important parce qu'on ne doit pas abandonner le combat et qu'on doit laisser des traces. Chaque auteur, j'ai écrit les livres que je ne trouvais pas. Ce pourquoi ils sont un peu spéciaux. Alors les gens ne les ont pas compris, mais moi aussi, des gens m'ont dit « Vous avez changé notre façon de penser ». Et si en plus quelques-uns, si j'ai pu aider à des conversions au catholicisme, parce que c'est quand même sauver les âmes, c'est sauver notre civilisation, mais aussi sauver les âmes qui est primordial, oui. Qui est le devoir de tout chrétien. Le devoir de tout et chrétien, alors, c'est de ramener au Christ.
Et alors, je reviens juste une parenthèse. Ce qu'a dit Harwell, c'est que non seulement le christianisme sauve les âmes, ou du moins il est censé les sauver, parce que lui, il est agnostique, mais on constate concrètement qu'il a sauvé les corps, parce que les progrès de la médecine... Nous les devons à l'émancipation intellectuelle et scientifique de l'Occident. Et si nous vivons jusqu'à 80, 90 ans, voire plus encore, c'est bien parce que derrière, il y a toute une civilisation qui a pris conscience de la valeur de l'homme.
Tout à fait.
Alors que dans l'Antiquité, l'homme n'avait pas de valeur en tant qu'individu. C'était le groupe qui valait.
Aucune civilisation, voilà. Aucune religion. Alors, j'ai aussi parlé hier de cette immense erreur dans la pensée des gens d'aujourd'hui qui est le relativisme, comme si les religions étaient équivalentes, hein, ce qui est une absurdité, il n'y a même pas d'autre mot. On peut être pour ou contre une religion, c'est pas la question. On peut être athée, mais l'athéisme est une religion.
C'est une religion, oui, parce que il me semble que c'est l'agnosticisme qui serait la position finalement
mais
la
non,
plus excuse.
Mais non, c'est aussi l'agnosticisme est une gnose.
C'est des
alors
gens
je
qui
disent ça à Jean-Louis Harwell que j'aime beaucoup.
Il
n'est
pas agnostique, lui.
Ah bon, non, mais il est agnostique.
Agnostique, oui, ouais. C'est-à-dire qu'il ne
mais
sait pas.
Mais l'agnosticisme en lui-même est une gnose dans la mesure où c'est une négation de l'existence de Dieu et du Christ.
Non, je ne crois pas. Les agnostiques que je rencontre sont des gens qui simplement me disent qu'ils sont perdus,
ils pensent donc que tout est relatif. Non,
ah,
non. Il y a une vérité, il n'y en a pas 36.
Non, parce qu'ils disent, c'est comme les gens qui ne connaissent pas les champignons, ils disent j'y connais rien, donc je préfère laisser ça à d'autres.
Ils peuvent continuer leur réflexion.
Mais d'ailleurs, si vous ne mangez pas de champignons, c'est pas grave. Hein. Oui, on peut, mais c'est ce que je dis. Et on peut faire le. Alors, observation, excusez-moi, je vous interromps, mais Pascal fait un pari très intelligent, il dit croyez, parce que même si vous ne croyez pas au début, finalement, si vous postulez que Dieu existe, vous agirez quand même dans le bon sens. Et la récompense est immense, puisque vous aurez l'immortalité de l'âme, et si vous perdez, vous perdez rien, par définition. Et si vous faites le pari contraire, que font les athées, les vrais athées, ou ceux qui sont violemment anti-religieux, vous postulez que Dieu n'existe pas. Si vous gagnez, vous gagnez rien. Mais si vous perdez, vous perdez tout.
Mais si,
cette fois-ci, c'est le pari de Pascal inversé.
Quand ils vont mourir, les athées vont, pardon du terme, mais ils vont crever comme des bêtes, parce qu'ils n'ont plus d'âme.
Ah oui.
S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme. C'est une âme cosmique, c'est pas la même chose, mais c'est pas une âme qui offre une liberté parce qu'elle est dans la nature, elle serait dans la nature. Et d'ailleurs, les athées ont aussi une incohérence, c'est de déterminer d'où vient la pensée. La pensée, elle n'est pas dans la matière.
La conscience.
Oui, la conscience et la pensée. Ouais, s'il n'y a pas de Dieu, d'où vient la pensée? Déjà, d'où vient la matière
Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que les physiciens nous disent, en réalité, nous sommes constitués d'atomes et de molécules. Mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le substrat matériel. Et ces atomes et ces molécules se changent tout au long de la vie, puisque nous renouvelons notre matériel biologique intégralement 7 fois dans une vie. C'est-à-dire que nos cellules ne sont pas les mêmes que celles qui nous constituaient quand nous sommes nés ou quand nous avions 10 ou 15 ans. Mais pourtant, nous sommes toujours les mêmes. Ce qui reste, ce n'est pas le support matériel qui a changé, c'est le motif. Et ils disent, c'est comme un programme informatique, un logiciel. Le motif, il est en dehors, c'est une série d'algorithmes d'ailleurs. Il est en dehors, c'est comme une partition de musique. Si vous détruisez le support matériel, vous cassez l'ordinateur, vous déchirez la partition, le support a disparu, mais le motif, lui, il n'a pas disparu. Simplement, il ne nous est plus accessible. Mais si vous en avez fait une photo ou une copie, il est de nouveau accessible, mais il existe toujours, le motif. Donc, nous ne mourrons jamais.
La matière reçoit de l'information qui ne vient pas de la matière elle-même, c'est ce que disaient les scientifiques, et il faut un programmateur, puisque vous avez parlé de musique, comme un chef d'orchestre. S'il n'y a pas de chef d'orchestre, la symphonie ne s'écrit pas toute seule.
Ah bah là, il faut même un compositeur à ce moment-là.
Voilà, mais Dieu est un peu tout cela. Alors, on va dire Dieu comme un programmateur, si on veut s'exprimer comme aujourd'hui. Le pari de Pascal, évidemment, moi, il m'est très cher. Et Pascal est le premier à avoir compris que Descartes allait amener à l'athéisme. Oui. C'est-à-dire les erreurs cartésiennes allaient finalement conduire à l'athéisme, donc au sacrifice, et on va rejoindre Girard. Dans le parcours de Girard, bon, Girard est né dans le midi de la France, dans un milieu assez cultivé. Il était baptisé, mais il n'a pas vécu comme un catholique, ça ne l'intéressait pas. Il est anthropologue, base, surtout. Il est d'abord, il s'intéresse à la littérature. Et il a écrit un premier livre qui s'appelle « Mensonges romantiques et vérités romanesques », qui est un livre uniquement sur la littérature. Déjà, parler de mensonges romantiques, c'est déjà un petit péché contre Rousseau. Donc, dans l'université française, ça ne plaisait pas trop. Mais je pense qu'il est allé aux États-Unis pour d'autres raisons qui sont personnelles, alors que je n'expose pas dans mon livre, parce que je n'écris pas la biographie. Mais ça a été exposé, la biographie de Girard. Je recommande de la lire, et de lire ce livre-là en général, dans un livre de Sylvain Durin qui s'appelle « René Girard, du désir à la violence », dans lequel il explique le parcours de Girard. Et évidemment aussi sa philosophie et sa pensée. Et Girard, après, on va parler d'un certain nombre de livres, mais quand il finit sa vie, il redevient profondément catholique. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a bien sûr passionné, c'est que à l'aboutissement de toutes ces réflexions scientifiques, parce que c'est un grand scientifique, ils finissent par dire oui, c'est le Christ et en plus c'est le catholicisme. Alors on ne sait pas, Sylvain Durin dans son livre qui est aussi au Verbe Haut, pose la question de savoir si Girard est allé jusqu'à la tradition, puisque moi je suis très attaché à la tradition. Alors les personnes intéressées le trouveront dans son livre. Et dans le mien, donc j'écris sur Girard, dont Girard a changé ma façon de penser il y a 40 ans, et j'ai, dans chacun de mes livres, j'ai fait des réflexions sur Girard. Pas toujours d'accord, d'ailleurs, et j'ai fait des petites remarques. Et j'ai appris, alors il y a, par exemple, on parlera, j'espère, de ce qu'il a appelé la lecture non sacrificielle de la passion, et chose extraordinaire pour un homme déjà célèbre, dans la fin de sa vie, il est revenu sur, à mon avis, ce qui était une erreur. Il avait fait une lecture dite non sacrificielle, et il est revenu. Donc il y a aussi, pour un grand auteur célèbre, revenir, dire « oui, j'ai commis une erreur », je trouve que c'est admirable sur un plan de personnalité. Voilà ce qu'est Girard. Donc c'est un très grand, et j'invite les gens à découvrir son œuvre. Et moi, dans mon livre, j'ai rassemblé tout ce que je disais sur lui, siècle après siècle.
Alors ce que l'on observe, c'est que à l'époque, dans les années 80, quand vous l'avez commencé à lire, vous étiez un précurseur, parce que personne n'entendait jamais parler de lui. J'ai commencé à entendre parler de René Girard au début du XXIe siècle, parce que c'est là qu'on a parlé de la violence et du sacré, on a parlé de la rivalité mimétique, de la notion de sacrifice humain, de justement le bouleversement qu'avait opéré le christianisme. Et là, on découvre un grand auteur qui était totalement inconnu du grand public en France.
En France, parce qu'en fait,
oui, je dis bien sûr.
Quand on le découvre, il a été placé à l'Académie, il a été élu à l'Académie française, mais très très vieux.
Mais justement, c'est au début du XXIe siècle.
C'est même après, je ne sais plus les dates, mais c'est dans les derniers. Il est mort en 2015.
C'est vers 2005.
Oui, voilà.
Oui, c'est là qu'on a commencé à entendre parler de lui.
Mais parce qu'il était traduit dans 20 langues, le monde entier le connaissait.
Sauf nous.
Et nous, ridicule, parce que notre culture gauchiste communiste l'avait mis à l'écart. Et alors que c'est le plus grand. C'est le plus grand penseur français reconnu dans le monde entier de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà où en est la dictature. Quand je parle d'une dictature culturelle en France, elle est... Aux États-Unis, vous avez encore une liberté dans l'université. Alors, il y a des bagarres. Les gauchistes sont aussi très puissants. Et les woke, et puis les Marcuse ont enseigné dans les universités américaines. Mais ils ont quand même une liberté encore d'enseignement. Alors que chez nous, c'est terminé. Si vous n'êtes ni freudien ni marxiste, vous n'enseignez pas. Et je connais même des catholiques qui ont été évincés de l'université parce qu'ils étaient catholiques.
C'est une évidence. C'était l'évidence. On a eu à cette table, enfin par visioconférence, Cornel de Boissaison, qui a été exclu de l'université pour un prétexte ridicule, sous prétexte qu'il avait fait évacuer un amphithéâtre occupé par des gauchistes, violents d'ailleurs, pour que les étudiants puissent avoir leurs examens. La sanction était totalement disproportionnée. Jamais il n'aurait été sanctionné de la sorte s'il avait été trotskiste, léniniste, maoïste. Jamais, jamais. On aurait eu peut-être un vague blâme ou alors à la rigueur un avertissement. Mais là, on s'est acharné contre lui et il a donné d'autres exemples. Alors moi, je peux donner aussi des exemples d'autres collègues en droit, en particulier, qui ont été persécutés en raison de leur obédience chrétienne.
Oui.
Et alors certains ont fait des actions en justice et ont obtenu gain de cause et une indemnisation, d'autres n'ont pas pu, mais il y a une haine viscérale à l'endroit des gens qui défendent la civilisation chrétienne, ça c'est indiscutable.
Et ils sont exclus,
c'est indiscutable.
Et des médias.
Et des médias.
Il y a deux émissions chrétiennes, oui. Mais on emploie très souvent, on entend cette expression que je vais appeler stupide, oui. Qui est judéo-chrétienne, judéo-chrétienne. Oui, oui. J'insiste bien, il n'y a pas de judéo-christianisme.
Ouais, enfin, il y a quand même la Bible.
Vous avez la religion juive, oui. Et vous avez ensuite le christianisme,
oui.
Qui,
oui.
Et le Christ,
oui.
Dit qu'il accomplit la religion juive.
Oui, c'est ça. Enfin,
mais à partir de ce moment, en théologie, puisque je ne suis pas théologien, mais j'étais bien obligé de me pencher sur la théologie, vous avez ce qu'on appelle la substitution.
Ouais.
C'est-à-dire que le christianisme,
oui, je sais, oui, je
prend... Le judaïsme est éteint.
Oui, oui,
alors,
oui.
Il est normal que les juifs ne
l'admettent pas.
Mais à ce moment-là, vous avez un second judaïsme post-christique.
Oui, c'est le talmudisme.
Qui est talmudique, oui. Et qui, lui, se compromet avec un ésotérisme cosmique et qui n'est plus conforme à l'enseignement d'Abraham et à l'enseignement de Moïse.
Ouais, ouais,
donc,
ouais,
il y a des controverses. Ouais. Mais si vous voulez, le terme... Vous avez eu, dans les deux premiers siècles, des communautés qu'on a appelées judéo-chrétiennes, évidemment, puisque les premiers chrétiens, ce sont des juifs qui se convertissent, hein, en suivant le Christ.
Ouais, c'est ça.
Et à partir d'un certain moment, c'est dans ces milieux que naissent les hérésies dites gnostiques, mais après, c'est terminé, vous avez d'un côté le christianisme et de l'autre le judaïsme. Alors, ce que vous avez en commun, c'est la croyance en Dieu le Père, c'est la croyance en la création, mais par contre, vous avez des choses qui séparent totalement les deux religions, c'est l'incarnation, que le Christ soit le rédempteur, la résurrection. Tous les dogmes chrétiens, les juifs ne les acceptent pas.
L'Immaculée Conception.
Donc si vous voulez, à ce moment-là, vous avez deux religions différentes.
Est-ce que la notion de Trinité existe dans le Talmud?
Non, elle n'est pas... Alors je ne sais pas ça dans le Talmud. Si je peux m'exprimer ainsi... Hein. Mais la Trinité, elle est sous-jacente. On l'a même dans la Genèse, si on veut la comprendre. On comprend que Dieu est multiple, bien qu'il soit un. Mais par contre, elle n'est vraiment exprimée que par le Christ.
Ouais.
Et elle l'est dès la parole du Christ.
Alors, voilà une question d'auditeur. C'est moi qui vais la lire, puisque mes assistants m'ont fait faux bond. Alors, bonsoir à tous. Nous dit l'auditeur, le pari de Pascal ne me convainc plus depuis que j'ai vu sa réfutation par un irréductible athée, visible sur YouTube même s'il le place très haut. Selon son réfutateur, Dieu nous aimerait-il davantage parce qu'on a calculé son existence selon notre intérêt? Je vois pas la contradiction, parce que ça oblige à agir quand même conformément aux règles de l'Évangile et de la Bible, et de rechercher le bien plutôt que le mal. Alors, en fait, ça, c'est un peu un argument, d'ailleurs, de protestants, vous remarquerez. C'est gentil, merci. Pardon, là, je parle parce que notre...
Oui, mais
alors, c'est un argument de protestants, parce que la foi, ça est censé vous sauver, indépendamment, d'ailleurs, des œuvres. Ah, c'est d'ailleurs l'idée, la
mais
grande...
C'est pas fidèle à saint Paul, si vous me pardonnez l'expression.
Mais rappelez-vous, c'est quand même
quand je vous ai dit hier que Luther avait falsifié l'Écriture...
Prima fides, je crois.
Le sola fides,
la foi seule.
Alors, dans
saint
Paul,
oui.
La foi sauve, mais c'est pas la foi seule.
Alors,
Luther a rajouté seul. Je pense que la critique qui est faite sur Pascal n'est pas valable.
J'ai pas fini de citer l'auteur. Voilà. De plus, croire en Dieu ne suffit pas pour le salut. Et ça, Pascal ne le précise pas. Ne suffit pas pour le salut, oui, effectivement. Les démons ne sont pas athées et ne seront pas sauvés pour autant. Ah bah, ils peuvent avoir la vie éternelle dans l'enfer, si. Si, ils peuvent, au contraire. Les démons sont des êtres sont des êtres spirituels qui sont tout à fait capables de vivre éternellement. Simplement, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions. Il ne suffit pas de croire, mais de pratiquer. Ça impose de lourds sacrifices si l'on veut atteindre la sainteté. Alors, bon, ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Oui, d'accord, je veux bien faire le pari de Pascal, mais je n'ai pas envie de miser beaucoup. Parce que tu comprends, je n'ai pas envie de bousiller ma vie pour de me battre avec une verge tous les matins et mettre une robe de bure et vivre de manger de racines. Mais... Je crois qu'on n'a jamais demandé ça.
Non, on n'est pas des saints. Personne n'est des saints. Simplement, nous avons un corps. Notre corps ne nous conduit pas toujours vers le haut, mais nous avons aussi une âme.
Eh oui.
Et le Pascal. Alors, il y a un mythe Pascal. J'ai détruit dans un livre qui s'appelle Siècle des Rose-Croix, parce qu'ils sont influencés, je vais le dire très brièvement, le mythe Descartes. Mais il y a aussi un mythe Pascal, qui n'est pas janséniste, contrairement à ce qu'on croit. Il les défend. Ouais. Alors, Pascal, il a une vie mondaine d'abord. Il est dans le monde. Ouais. Et puis, il se retire à Port-Royal. Il défend les jansénistes. Ouais. Et les provinciales sont mises à l'index. Ouais. Et par contre, les pensées ne sont pas mises à l'index. Et il y a une grande erreur commise, y compris par des écrivains catholiques, de penser que Pascal refuse la scolastique ou refuse la raison. Non, Pascal dit que le cœur, le sentiment, si on peut s'exprimer, le cœur est plus vaste que le sentiment, hein, parce qu'il y a la volonté pour Pascal. Le cœur est un prémisse à la raison. C'est-à-dire que saint Augustin dit aussi « crois afin de comprendre ». Mais il ne dit pas « il n'y a rien à comprendre
».
La foi nous amène à la réflexion. Et l'une des graves erreurs de Luther, c'est de refuser la raison. Il ne faut pas... Parce que si on est dans le sentiment, c'est très bien. Il fait partie de la foi chrétienne. Mais la foi, c'est une adhésion à un dogme. Et le dogme est rationnel. Le dogme, il y a une raison dans le dogme. Ça veut dire des choses, le dogme. Ce n'est pas des choses qui tombent comme ça.
Oui, c'est pas des absurdités ou des enfantillages.
Absolument, il y a des logiques.
Il y a des
logiques. Et les grands théologiens, dont évidemment saint Thomas, ont absolument expliqué ces logiques. Quand on se penche sur ces œuvres-là, on comprend. Donc il y a un mythe Pascal. Pascal ne refuse pas la théologie. Alors Pascal lui-même, il n'est pas compétent en scolastique, mais il a compris tout de suite que Descartes allait amener à l'athéisme. Il est anti-cartésien. Et c'est pour ça qu'il n'est pas janséniste, parce que tous les jansénistes sont des cartésiens. Donc je rétablis ça dans un livre. Mais donc voilà, je ne pense pas que ça...
Non, mais c'est tout simple. Non, parce
on va
quand
revenir
vous...
à Girard. Si...
Non, mais attendez, je voudrais quand même répondre à l'auditeur.
Oui.
Je ne pense pas que... La réfutation par l'irréductible athée soit à prendre très au sérieux. Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde ne vise pas la sainteté. Et ce qui compte, c'est d'agir en chrétien, de faire le bien et de lutter contre le mal. Si vous faites le pari de Pascal, vous allez créer des conditions favorables à votre salut.
Tout à fait.
Ça ne va pas assurer forcément le salut, mais disons que ça va éviter déjà de les compromettre définitivement. Si vous faites le pari inverse, ou si vous faites le pari de Satan, c'est-à-dire que vous allez rechercher à faire du mal, vous allez chercher à servir les trois grandes divinités du monde moderne qui sont le sexe, le pouvoir et l'argent, et vous allez devenir un être profondément abject et méprisable. Et de toute manière, Dieu ne pourra rien faire pour vous, même si vous prétendez croire. Donc simplement, ça crée les conditions favorables au salut. Et l'appétit vient en mangeant. Quand on a vu... Qu'en agissant, en faisant le bien, en luttant contre le mal et en agissant en chrétien, on ne s'en portait pas plus mal, bien au contraire, eh bien, on se dit, on continue dans la bonne voie. C'est exactement comme un étudiant qui continue à réviser, à étudier son cours de droit, par exemple, et à comprendre comment fonctionnent les institutions juridiques, et il voit qu'il a des bonnes notes aux examens, et alors à ce moment-là, une belle carrière s'ouvre à lui. Et puis, il peut devenir un grand avocat, un notaire éminent ou un prof de droit ou un arbitre international qui gagnera 1 million d'euros par mois. Parce que, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il vaut mieux faire ce pari, même si c'est pas suffisant, c'est nécessaire. Et puis, ça, c'est toujours utile, c'est un peu comme un passeport, un sauf-conduit.
Oui, puis c'est aussi une renonciation à la violence.
Oui, on va revenir à la violence, Girard, et à la méchanceté gratuite.
J'ai une phrase de Girard là, que je voulais donner, qui est « Suivre le Christ, c'est renoncer au désir mimétique
». Oui,
et ça, c'est, alors,
oui, ça, c'est
on va
très
parler
juste.
De Girard. Voilà,
alors,
suivre
oui.
le Christ, c'est renoncer au désir mimétique. Alors Girard, il y a des points sur lesquels il n'innove pas tant que ça. On parle beaucoup du désir mimétique, c'est-à-dire... Le désir qui nous pousse à vouloir ce qu'a l'autre, en
vérité,
la rivalité, la jalousie, l'envie, et qui crée la violence.
Et la mode, les phénomènes de mode.
Et donc ça. Et si vous voulez, vous avez à ce moment-là un enchaînement des crises et la violence que Girard a appelée impure,
ouais.
C'est-à-dire qu'elle se renouvelle sans cesse.
Ouais.
Vous faites une guerre, il y a une défaite, c'est la vengeance.
Alors regardez les Palestiniens et les Juifs.
Voilà, ça n'arrête pas.
Ça n'arrête jamais.
Et,
ça
il,
fait...
a, voilà. Et ouais. Il a mis en évidence un autre phénomène qu'il a appelé la violence purificatrice, alors c'est un
petit peu
contradictoire, et qui est obtenue par le sacré. C'est le rôle du sacré,
oui.
Parce que où la société est sacrée, c'est-à-dire comme une société notamment chrétienne, mais pas uniquement, est régie par du sacré, par une religion, ou elle est profane, c'est-à-dire qu'elle est régie par une philosophie.
Oui.
Et vous avez un autre fond...
Ou une idéologie.
Ou un autre auteur qui est indispensable aussi à connaître, c'est Mircea Eliade,
qui n'était pas
un catholique non plus, il était gnostique, mais qui a écrit toute l'histoire des religions depuis le début, et qui avait écrit le profane et le sacré. Mm-hmm. Soit on est dans une société profane, soit on est dans une sacrée. Et dans toute mon œuvre, j'insiste bien pour dire que la Révolution nous a fait tomber dans le profane et que le profane est plus violent que le sacré.
Ouais.
Le sacré est capable d'éteindre la violence plus ou moins bien. Et là où Girard a innové, c'est qu'il a bien déterminé, alors en psychologie d'abord, mais surtout après en anthropologie, ce qu'il a appelé la violence sacrificatrice, la violence, pardon, purificatrice, qui naît d'un sacrifice. On a ça dans les sociétés archaïques.
Mmh.
Les hommes, pour arrêter de s'entretuer, ont fondé leur société autour de ce qu'ils ont appelé un centre du monde.
Ouais.
D'abord, l'homme lui-même, il est au centre du monde quand il est enfant, donc c'est la même chose. Alors évidemment, les hommes ne vivaient pas en bon sauvage, comme l'a dit Rousseau. S'ils n'avaient pas été en tribu, c'est pas la société qui permettait.
Et puis
s'ils n'avaient pas été en tribu, ils seraient morts. Ils pouvaient pas survivre.
Leur mort, c'était particulièrement cruel.
Voilà. Mais il y a déjà, à l'époque, une réflexion. Ils pensent que le feu vient du ciel. Il y a déjà une aspiration à un sacré. Et le problème, c'est que le mot sacré, dans l'Antiquité païenne, veut dire sacrifice. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice humain.
Mmh.
Et là, Girard a aussi magnifiquement décrit comment, dans les sociétés antiques, on sacrifiait des humains, et notamment dans les sociétés agricoles.
Le bouc émissaire.
Le bouc émissaire, ça apparaît après, c'est avec la Bible, si on peut dire.
Ça, ouais.
C'est Dieu retient le bras d'Abraham, et c'est un progrès que l'on doit au judaïsme. C'est que la vengeance, et puis on sacrifiait beaucoup de jeunes filles pour verser leur sang sur la terre, pour qu'elle
reproduise.
Parce que les anciens se considéraient dans un temps cyclique, il fallait que ça redémarre. Le nouvel an, ça vient de là. Hein.
Ah oui.
C'est-à-dire que au nouvel an, il y avait comme un roi de carnaval. Il fallait que le cycle de la nature redémarre. Et pour l'agriculture, les premières sociétés agricoles sacrifiaient des jeunes filles. Ne croyez pas que ce soit ancien, parce que la terre mère des écologistes, c'est la déesse nature de cette époque. Et donc les féministes écologiques, elles oublient que dans leur système, on va aboutir au sacrifice des femmes. Mais on aboutit au sacrifice des femmes. On les déforme, parce qu'une femme, elle doit rester femme dans son corps, et un homme doit rester homme dans son corps, et les femmes doivent enfanter, et on ne doit pas tuer leurs enfants.
Évidemment.
Donc l'avortement est un sacrifice.
Et on ne doit pas changer de sexe.
On ne doit pas changer de sexe, parce que l'humanité a été créée par Dieu, bisexuée. Dans l'Antiquité, dans les mythes de l'Antiquité, vous avez le fameux mythe de l'androgyne, l'homme qui serait ni homme.
L'hermaphrodite.
C'est pas tout à fait.
Mais,
mais par exemple, tout ça a une incidence, c'est que la théorie du genre, c'est le retour au mythe de l'androgyne. Nous vivons aujourd'hui des conséquences du retour de la mythologie à cause de la Révolution. La Révolution n'est pas seulement politique, j'ai expliqué déjà hier qu'elle était religieuse, et elle est ce que j'appelle une révolution, un retour au culte cosmique, et la preuve que c'est d'actualité, parce que c'est pas que de la culture, c'est que la philosophie du mondialisme, c'est le cosmopolitisme, c'est-à-dire le politique du cosmos.
Oui,
revient au culte du cosmos.
Les prétendus citoyens du monde.
Les plus prétendus
citoyens du monde. Qui sont citoyens nulle part.
Donc on doit les sacrifier. Et c'est pour ça qu'on a aussi parlé du meurtre fondateur des temps modernes, qui était le sacrifice du roi Louis XVI par les Illuminés et par les francs-maçons à la Révolution, pour marquer le début des temps modernes dans le sang. Donc on substitue l'amour que nous offre le Christ, on rétablit le sang. La société est fondée par le sang. La société n'est pas fondée par un contrat social, elle est fondée par le sang. Et malheureusement, le sang coule. À la Révolution, le sang coule, le sang des catholiques coule, ils sont sacrifiés, et l'hymne de notre pauvre nation abreuve le sillon.
Alors, vous savez
et le sillon, c'est la terre-mère.
Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais peut-être que vous le savez, la Marseillaise est un plagiat, puisque ce n'est pas Rouget de Lisle qui a composé la partition. C'est Jean-Baptiste Grison, qui est un compositeur de les contemporains, qui a été maître de chapelle à Saint-Omer, et qui a fait un oratorio qui s'intitule Esther, dans lequel il y a les stances de la calomnie, et c'est la Marseillaise, vous pouvez l'entendre sur Internet. Hein. Maintenant, ça commence à se connaître, à savoir, mais ça a même été joué à l'orgue, vous allez l'entendre, les stances de la calomnie. C'est la Marseillaise en mieux, d'ailleurs, parce que c'est un peu plus élaboré que la Marseillaise, qui est une version plus rudimentaire, parce que Rouget de Lisle était un piètre musicien, totalement incapable de composer quoi que ce soit. Alors on dit oui, mais alors pourquoi est-ce que Jean-Baptiste Grison, qui avait fait entendre Esther en 1787 à Versailles, pourquoi est-ce qu'il n'a pas protesté? Vous savez, en 1791, 92 ou 93, c'était peut-être pas très bien vu de venir dire « Monsieur, non, là c'est moi », parce que Jean-Baptiste Grison risquait fort de le guillotiner. Hein. Donc il n'a rien dit du tout, parce qu'il a préféré adopter un profil bas, comme on dirait aujourd'hui. Il n'a pas voulu en parler. Mais en fait, c'est lui qui est le compositeur. Alors ce qui est assez curieux, c'est que le morceau qui a servi... Alors les paroles sont absolument grotesques. Hein. Les paroles sont absolument amphigouriques, ridicules à tout point de vue, et haineuses, et pleines de haine. Mais l'air est pas mal. Alors, si vous écoutez l'air, vous remarquerez que le vrai titre, ce sont les stances de la calomnie.
Oui, et la
ça,
Marseillaise,
c'est très intéressant.
Les Marseillais, ce qu'on a appelé les Marseillais, ce sont des bagnards qu'on avait sortis de Toulon. Pour participer au massacre, c'est-à-dire on les avait recrutés à la Révolution, c'est ça.
Voilà.
Et en fait, ce sont des bagnards qui avaient été sortis de prison pour servir de main d'œuvre pour massacrer. Notamment,
mémoire,
donc c'est les massacres des gardes suisses.
Ah oui, c'était des mercenaires.
C'est de là que ça vient. Ce qui est très important dans cette question, c'est donc il y a le sacrifice humain dans toute l'Antiquité. Vous avez parlé de Tibère. Tibère, il a sacrifié, je crois, une fois 1000 enfants pour son anniversaire.
Il avait des bassins remplis de murailles.
Et l'apport du christianisme, c'est le Christ se sacrifie, le Fils de Dieu se sacrifie lui-même. Pour mettre fin au sacrifice humain.
Oui.
Et à ce moment-là, le sacré, que j'écris avec un S majuscule, ça devient un sacrement. Vous avez l'Eucharistie,
Oui, on comprend
qui est
maintenant.
Le renouvellement.
On passe du sacrifice au sacrement.
Au sacrement. Donc, au lieu de verser le sang, on le fait d'une façon,
symbolique.
Je ne nie pas la transsubstantiation, contrairement à certains protestants, cher monsieur. On substitue à une violence sanglante un sacrement qui éteint la violence. C'est un progrès sociétal énorme. Et à partir du moment où les messes ne sont plus célébrées, donc l'Eucharistie, est-ce qu'elle existe encore ou pas? Est-ce qu'elle est dénaturée? Je pose juste la question. Je ne veux pas m'aventurer dans ce domaine aujourd'hui. La violence renaît parce que le sacrifice du Fils de Dieu n'est plus suffisamment renouvelé dans la société.
Ouais.
Il faut envisager ça comme ça. Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement.
Je vais vous lire cette question de l'auditeur. Alors, c'est un auditeur qui suit notre émission et qui nous remercie. Est-ce que c'est le même que... Non, ce n'est pas le même, mais en tout cas, merci. Merci, chers auditeurs, pour vos messages élogieux. Alors, il dit « Je suis en train de lire Les Fils de la Lumière » de Roger Perfitte. Ah, pas Alain Perfitte. Hein.
Non, non.
Roger Perfitte, qui n'était pas un personnage très...
Un grand écrivain.
Un grand écrivain, personnage sulfureux. Cela regorge d'anecdotes amusantes où l'on voit les liens compliqués avec l'Église. La supercherie de Léo Taxil, les listes de francs-maçons données par un initié converti à Lourdes, un Monseigneur Join, un Robert Valéry Radeau, ça c'est le pasteur bien connu. Votre invité connaît-il connaît-il le livre de la fin du 19e siècle, Le franc-maçon de la Vierge, d'un certain Florent Bours? On y apprend que la rue Puteaux, GLNF, Grande Loge Nationale de France, occupe un ancien couvent des Récollets. C'est très amusant et servi par un style alerte. Voilà, eh ben, écoutez, je vous donne la question. Je vous laisse ces questions en souvenir de cette émission.
Perfit savait beaucoup de choses.
Oui.
Il l'a transposé en roman.
Oui.
Donc, c'est pas dans mes références.
Non, évidemment. Mais ça peut être intéressant à titre documentaire.
Voilà, en tout cas.
Ah, il y a un bobino qui doit passer, alors attendons un peu.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Alors voilà, donc nous pouvons reprendre. Alors, on va revenir à votre livre, La crise sacrificielle du monde moderne, parce que donc le déclin et l'oubli du christianisme ramène la violence et ramène des mœurs barbares, d'une certaine façon. Et ramène de sacrifices humains. Alors, il est impossible de ne pas faire le rapprochement avec l'observation de la société quotidienne. De plus en plus, on observe que les véritables criminels sont impunis et que les victimes, elles, sont persécutées.
Oui.
Alors, vous avez, dans l'État contemporain, trois têtes de Turc, trois boucs émissaires de l'État, qui sont le contribuable, le propriétaire et l'automobiliste.
Oui.
D'ailleurs, on va reparler des automobilistes tout à l'heure, parce qu'on va faire une petite parenthèse à propos des fameuses ZFE. Ce sont les trois têtes de Turc du pouvoir, qui apparemment le contribuable, qui est un honnête citoyen, puisqu'il entretient la nation, il fait vivre l'État, l'automobiliste, qui est une vache à lait pour les pouvoirs publics, et le propriétaire sont littéralement honni des puissances qui nous gouvernent. Honni à tout point de vue, alors c'est une fiscalité abusive, confiscatoire, qui se rapproche de plus en plus des tribus que l'on exigeait des peuples vaincus dans l'Antiquité, fiscalité qui généralement est parfaitement arbitraire et attentatoire non seulement aux droits de propriété mais aux libertés.
Et du communisme.
Et c'est une forme de communisme progressif. C'est le général de Gaulle lui-même avait dit, lorsque l'étiage des impôts dépasse 24 ou 25%, l'impôt n'est plus légitime parce qu'il devient confiscatoire. On est aujourd'hui à des taux d'imposition, si vous cumulez tout, qui peuvent avoisiner 70%. Ensuite, le propriétaire est haï. On veut lui interdire de louer son logement, on l'accuse de réchauffer le climat, on met en place des diagnostics de performance énergétique, on a instauré des permis de louer. Un député socialiste, je crois, voulait instaurer un permis d'habiter aussi, qui aurait conduit à l'exclusion et à l'éviction des propriétaires qui se contentaient d'un bien inconfortable ou insalubre, et ce bien aurait été confisqué par l'État. Donc il y a une haine viscérale à l'endroit, bien sûr, du propriétaire, qui est considéré comme l'auteur de tous les maux, parce que le propriétaire, c'est un bourgeois, c'est un capitaliste, il est détesté. Bah. Et puis le troisième tête de Turc, c'est l'automobiliste. L'automobiliste, il faut lui interdire de circuler, il faut lui interdire, faut le taxer au maximum, il faut l'essence, on va mettre des taxes exorbitantes, on le voit tous les jours. Quand le prix du pétrole monte, on refuse de baisser les taxes parce que ça serait pas bien que l'automobiliste ne pâtisse pas de la crise. Donc on a trois boucs émissaires et nous voyons aujourd'hui que l'honnête citoyen est généralement soumis à des tracasseries bureaucratiques, administratives permanentes, et je ne parle pas des formulaires à remplir en ligne, des injonctions de l'administration, la moindre incartade est très durement sanctionnée au nom du principe tolérance zéro. Mais par contre, les mafieux, les trafiquants de drogue, les politiciens corrompus, et vous connaissez quelque chose, eux, c'est l'impunité garantie, et les vrais criminels qui sont en prison, ah, les pauvres, ce sont des victimes de la société. Ah, nous sommes tous responsables. Voilà ce qu'on entend tous les jours. Donc, il y a une...
C'est une preuve de la perte de liberté dont on parlait hier, par cette dictature numérique qui est mise en place. Et sur le plan des sacrifices, j'aurais juste aussi rendre hommage au Front National.
Oui,
en 1986, quand il y a des députés... Oui. Il y a une proposition de loi qui est de rétablir la peine de mort pour les assassins d'enfants.
Oui, je me souviens de ça.
Et évidemment, la droite et la gauche ont crié aux anathèmes et tout ce qu'on veut. Et depuis, il y a eu beaucoup de récidivistes, assassins d'enfants. Vrai. Donc, des enfants sont morts parce que on n'a pas voulu, la droite et la gauche n'ont pas voulu rétablir cette loi. Voilà. Ça fait partie d'un parcours que j'ai connu, puisque j'avais été proche du magistrat qui avait préparé ces projets de loi. Il m'avait demandé mon avis et je lui ai dit c'était pas la peine de changer une virgule, son projet était parfait. Il n'y avait pas que ce projet-là. Donc il y a eu des avertissements.
Ouais.
Et la dictature communiste. Ouais. Alors, dans tous mes livres, j'évoque aussi un phénomène important qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons le capital socialisme. Ouais. Il ne faut pas croire que le socialisme soit l'adversaire du capital.
Ouais.
Alors, capital, vous avez capital national, c'est qui fait partie de notre indépendance, et capital apatride, finance apatride, qui, elle, détruit les nations. C'est pas la même chose. Et nous vivons dans un système capital socialiste, le capitalisme pour tenir l'État, et le socialisme pour tenir ce que je vais appeler le bétail, c'est-à-dire le peuple. Hein. Voltaire appelait le peuple bétail. Voilà, les droits de l'homme, Voltaire enseigne des droits de l'homme.
Les
Français étaient des oies. Et le peuple était le bétail.
Hein. D'ailleurs,
c'est l'ancêtre des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, il faut peut-être que les gens réfléchissent à la perversion culturelle des fausses lumières, que j'appelle ténèbres, pardonnez-moi de répéter.
Quand on lui avait demandé à Valéry Giscard d'Estaing ce qu'il pensait de l'électorat français, lui qui se voulait démocrate quand même, il avait dit « il faut considérer que l'électorat français a le niveau intellectuel d'un élève de troisième ».
Oui, c'est possible, ça. C'est pas la question.
Oui, mais
c'est pas une raison pour mépriser le peuple.
Exactement.
Il faut l'élever, il faut que l'éducation redevienne une éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, on abrutit les enfants. On en fait des analphabètes, c'est volontaire. Alors, j'avais écrit ça il y a 30 ans, j'ai dit attention, l'éducation nationale veut faire des analphabètes. Oui, c'est ce qui se passe.
Alors, pouvez-vous expliquer un petit peu ce que contient ce livre, La crise sacrificielle du monde moderne ? Alors,
on peut regarder la table des matières. L'histoire des civilisations du début, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui.
L'échec moderne ou la violence et le profane. Oui, là, on retrouve bien.
On retrouve ce thème-là, donner le titre des chapitres, si vous voulez.
Les sacrifices humains, le sacrifice au temps primitif dans l'Antiquité païenne, oui, c'est très juste. Oui. L'apport juif, oui, c'est très bien. Le sacrifice du Fils de Dieu, bah oui, ça c'est le christianisme. L'islam, la renaissance, la réforme et le retour du sacrificiel cosmique.
On en dira un mot peut-être après.
La régression des philosophes moderne à la mythologie, la révolution et le sacrifice du roi et du peuple, oui, ça c'est la révolution, la crise sacrificielle du monde moderne, oui. Alors, il est évident que nous sommes dans une époque où on n'hésite pas à sacrifier les victimes.
Et puis, au XXe siècle, 200 millions de morts, n'oublions pas, je le répète souvent, mais il faudrait peut-être qu'on remémore
ces
victimes innocentes. Ce qui est très intéressant dans le sacrifice humain, c'est qu'il faut que les gens soient innocents. Et c'est pour ça que le Christ est l'agneau, c'est un symbole, parce qu'il est le plus innocent. L'agneau, c'est le plus innocent. Donc, il se sacrifie lui-même comme un innocent. Parce que si vous sacrifiez un coupable, quand les clans se battaient dans l'Antiquité, ils sacrifiaient un innocent, ils prenaient quelqu'un d'extérieur à la tribu, ils se réconciliaient sur une victime innocente.
Mais alors pourquoi
C'est d'actualité, parce qu'il y a eu, par exemple, deux bandes de banlieue qui se sont réconciliées en tuant une jeune policière.
C'est ce que vous avez dit dans votre émission sur GPT TV.
Je reviens toujours sur les mêmes exemples, mais c'est pour montrer l'actualité. Nous revivons dans une période sacrificielle.
Et c'est très curieux, parce que c'est totalement absurde de faire de ce type de comportement. Il est absurde.
Et c'est humain. C'est comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est l'humanité. L'humanité sans Dieu.
C'est ça.
À partir du moment où il y a une révélation par le Dieu, par Dieu, par les prophètes aux Juifs, mon premier apport, il y a plusieurs apports dans la Genèse, il y a déjà aussi ce phénomène extraordinaire. Cain s'adresse à Dieu en disant « Bon, moi, j'ai tué mon frère.
Ouais, »
Le meurtre du frère, c'est classique.
Ouais.
Rémus, Romulus, ces fondements de société. On tue le semblable, on tue le jumeau pour prendre sa place parce qu'il y a une rivalité mimétique entre les deux.
Ouais.
Enfin, ça aussi, Girard explique très bien ça. Mais Dieu dit non, on ne va pas venger le meurtre d'Abel.
Ouais.
Celui qui tuerait Cain, il va errer, bien sûr, il est puni. Et par contre, ça serait vengé 7 fois, c'est un chiffre symbolique. Donc, on arrête déjà le cycle des vengeances.
Mmh.
Par contre, il manque encore l'incarnation et le sacrifice du Fils de Dieu pour qu'il soit mis définitivement fin au sacrifice humain.
Ouais.
À partir du Christ, ceux qui sont condamnés à mort, appelons les choses par leur nom, ce ne sont plus des innocents, ce sont des coupables. Donc la justice passe. On ne condamne plus un innocent, on condamne un coupable. Avec les erreurs judiciaires, ça, c'est un autre
oui,
sujet.
Oui, et en fait, on voit qu'il y a une inversion des valeurs actuelles où on, de plus en plus, on condamne des innocents,
oui.
Mais plus du tout les coupables.
Absolument.
Et par exemple...
On est dans l'inversion.
Regardez l'affaire Epstein. Il y a beaucoup de coupables non condamnés dans ces affaires-là. Et non
poursuivis. Parce qu'ils sont très hauts. Évidemment, ils tiennent des gens très hauts. C'est tout un système pourri,
oui.
Tout le monde le sait. Ça, c'est pas...
Oui, parce que tolérance zéro, ça s'applique au petit peuple.
Oui, et ce n'est pas inéluctable. Alors, je vais encore parler là, du virage de 1981, hein, que j'ai connu et que j'ai vécu, puisque j'avais connu le milieu politique avant. Alors, il y a toujours eu des députés véreux, évidemment. Mais en 1981, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils ont cru que les prédécesseurs, y compris ceux que j'aime pas du tout, Giscard, on peut en dire du mal aussi, parce que c'est de sa faute si on est aujourd'hui la situation en Iran. Et entre autres, l'avortement aussi, tout ça c'est sous Giscard. Le regroupement familial, l'avortement, ça c'est Giscard. Et les socialistes pensaient que le système était tellement pourri qu'ils ont fait la même chose. Mm-hmm. Et moi j'ai eu des témoignages, notamment dans des personnes qui conduisaient les avions présidentiels, en disant « mais maintenant, on abuse des avions comme si avant, ils abusaient ». Mais non. Alors, il y a toujours eu des députés véreux.
Oui.
Mais pas systématiquement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une corruption totale du système. Avec beaucoup de francs-maçons dans le coup aussi.
Oui, c'est
aussi,
un
si
système
ce
quasi mafieux.
Pas uniquement. C'est une mafia.
Et d'ailleurs, en fait, c'est le peuple sert juste de paravent, de prétexte.
D'un prétexte.
Parce que le peuple...
On gouverne contre
vu,
le peuple.
J'ai jamais vu... Alors, l'élite au pouvoir est très consciente de cette remise en question. Elle a très peur. Alors, elle essaye de nous expliquer. C'est la distinction entre ce qu'ils appellent les démocrates et les populistes.
Oui.
C'est que quand le peuple veut réellement s'exprimer ou souhaite vraiment quelque chose... Ah non ! Parce que c'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est pas ce que veut le peuple, contrairement à ce qu'on aurait pu croire et ce que Rousseau nous disait. Ah, c'est pas ça du tout. La démocratie, c'est une construction oligarchique qu'ils ont appelée l'état de droit. Et c'est en fait beaucoup le gouvernement des juges. Et alors nous faisons partie des initiés. C'est d'ailleurs le thème que l'avocat, que vous connaissez peut-être, avocat au Conseil d'État, à la Cour de cassation... Patrice Spinozzi défend, ah non, la vraie démocratie, c'est pas du tout le peuple, parce que le peuple est sot, le peuple peut se tromper, et puis il est versatile, et puis il est violent, et puis il respecte pas le migrant, et puis il a pas toujours envie d'égalité. Non, 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 la démocratie, c'est pas ça du tout. La démocratie, c'est les sachants, les experts, les juges, ceux qui ont la science du droit, donc une sorte d'oligarchie, qui va déterminer les institutions internationales, Bruxelles, un certain nombre de gens qui n'ont jamais été élus, évidemment, et qui ne sont pas non plus légitimes d'une autre façon, parce qu'ils pourraient être légitimes d'une autre manière, qui vont déterminer le bien et le mal.
Oui.
Et d'ailleurs, ils sont le bien, et ils créeront dans ce qu'on appelle la post-vérité, ils créeront les nouvelles valeurs de l'humanité. Donc ils se prennent pour des dieux, en fait. Alors ça, c'est une dérive qu'on a connue dans les pays communistes avec les nomenclaturas.
Voilà. Nous la vivons.
Nous sommes aux mains d'une nomenclatura qui estime qu'elle est le bien. Alors, Patrice Spinozzi, qui est par ailleurs un avocat très connu et remarquable et très compétent. Alors moi, je suis prof de droit, donc je lis parfois ses éditoriaux d'Alloz. La plupart des revues juridiques sont totalement gnostico-millénaristes.
Hein. Oui.
Elles sont totalement antichrétiennes. Hein. Alors là, immédiatement, elles sont acquises à toutes les forces que vous dénoncez. Et il écrit régulièrement des papiers intéressants, mais qui sont généralement d'une mauvaise foi incroyable. Et alors c'est lui qui avait dit « Ah, le pire de tous, ce n'est pas Donald Trump, c'est Viktor Orban, c'est lui le cerveau de la bande, et c'est lui qu'il faut abattre. » Et ces gens-là, ils ont des raisonnements de mafieux. Parce que c'est pas que veut le peuple, non, c'est plus ça, la démocratie, c'est plus du tout le pouvoir du peuple. Que dirait Périclès ? Hein, que dirait Babeuf ? Que dirait Babeuf ?
Que dirait
Robespierre ? Mais écoutez, si Robespierre voyait ces gens-là, il les ferait guillotiner tout de suite.
Bien sûr, mais c'est l'aboutissement d'un long complot. Alors moi, dans mes livres, je remonte à l'origine, ça m'a fait penser. Vous avez un texte de 1614 dont je parle dans mon livre sur le siècle des Rose-Croix, parce que moi je cite les textes, qui est la Fama Fraternitatis. C'est sept savants, parce qu'il y a des chiffres symboliques, qui sont destinés à dominer le monde. Et vous avez à la même époque Francis Bacon, qui dit la République l'Atlantide, qui appelle l'Atlantide, Atlantis, la République des savants.
Oui.
Et c'est ce qui va aboutir ensuite par la franc-maçonnerie à la République, à la Révolution.
Mais en fait, ces
vous
gens,
avez une filiation, c'est pas d'aujourd'hui.
Mais ces gens ne parlent pas du tout.
Le peuple, ils s'en fichent.
Ils disent démocrates, mais le peuple est juste pour eux l'instrument qui leur permet d'avoir le pouvoir.
Absolument.
C'est tout. Enfin, bon sang.
Le peuple a quand même encore le droit de vote. Il peut quand même voter pour d'autres.
Oui, mais rappelez-vous qu'il y a eu des menaces réitérées.
Oui.
Qui ont consisté à dire, attention, si par hasard le Rassemblement National l'emportait par malheur aux prochaines élections, nous n'hésiterions pas à annuler les élections.
Bien sûr.
Ils l'ont dit, ils le répètent. Vous savez, il faut toujours croire ce que les gens disent et répètent, parce qu'Hitler, on ne l'a pas lu, on ne l'a pas cru. Il a dit, je vais exterminer les Juifs. On a dit, non, il ne le fera pas, mais non. Et puis, on a vu ce que c'était. Non, et les autres ont dit, on abolira la propriété privée, mais non. Et puis, ils l'ont fait. Alors, on va peut-être appeler un correspondant pour faire une petite parenthèse, parce qu'il faut qu'on parle justement de ces fameuses zones à faible émission. Vous savez qu'ils sont censés interdire les voitures anciennes dans les villes.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez appeler, chère technicienne, Monsieur Bonfils, qui va nous... Alors, parce qu'il y a eu un recours de députés macronistes devant le Conseil constitutionnel à la suite de la décision très juste du Parlement de supprimer ces fameuses ZFE. Alors ces ZFE étaient un moyen d'interdire aux gens de circuler s'ils n'avaient pas des voitures dernier cri ou électriques, puisque toutes les voitures à pétrole devaient à terme être exclues de la circulation dans les grandes agglomérations, ce qui était évidemment catastrophique pour la majorité des Français. Tout le monde n'ayant pas, il ne répond pas. Bon, écoutez, alors j'en parle moi-même. S'il ne répond pas, je vais en parler moi. Les ZFE, parce que ça permet de montrer, d'ailleurs, la crise sacrificielle. C'est un exemple de crise sacrificielle. Dans les années 2010-2011, les gens de gauche ont décidé que c'était absolument intolérable que les gens roulent avec des voitures polluantes dans les grandes agglomérations. Bon, et alors au début, ils visaient bien sûr les vieux diesels pourris. Et tout le monde disait, mais non, ça, ils ne pourront pas le faire, ils ne peuvent pas interdire aux gens de circuler, c'est impossible, trop compliqué, pas impossible à mettre en œuvre. Sauf qu'ils ont fait leur petit bonhomme de chemin, ils ont mis en place les zones à faible émission, sous-entendu de particules, dans les années 2017-2020, qui, à terme, interdisent la circulation des véhicules qui n'ont pas les vignettes critères qui correspondent. Bon, ça n'a jamais été verbalisé, parce que, tout simplement, ce n'était pas possible techniquement et politiquement de le faire. Donc ça, les sanctions étaient repoussées, mais là, Macron et sa clique voulaient quand même aboutir mettre en place des vidéo-verbalisations massives. Je ne sais pas si vous venez en voiture ou en train dans Paris, mais si vous venez en voiture avec une voiture qui est antérieure à 2010 ou 2015, vous auriez été visé, pour pouvoir sanctionner tous les gens qui entreraient dans les grandes agglomérations. Ça a fait un tel pataquès que une coalition de gens de gauche et de gens de droite, notamment avec le Rassemblement National, a décidé d'arrêter ce machin, cette espèce de machine infernale, cette bombe à retardement, et d'abroger purement et simplement les fameuses zones à faible émission. Alors, ça a été fait à l'occasion de la loi sur la simplification de la loi économique. Et un des arguments qui a été avancé très juste, c'est qu'en réalité, la pollution a fortement diminué depuis 2017. Elle a diminué de 40%, tout simplement parce que les véhicules polluants sont partis à la casse. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de ratio légis. Cette loi présenterait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, sachant que la qualité de l'air s'est améliorée dans des proportions considérables depuis 9 ans. Et que dans des pays étrangers, on a supprimé ces restrictions qui ne servent plus à rien, sauf qu'elles avaient, d'une part, un aspect écologie punitive qui était précieux dans l'esprit des oligarques, pour mieux asservir le peuple, pour bien lui faire sentir que maintenant c'est plus lui le maître, et d'autre part, elles avaient un autre avantage, c'est d'enrichir grassement un certain nombre de groupes de pression, tout simplement parce que vous avez en France 39 millions d'automobiles. Et sur ces 39 millions d'automobiles, il y en a une très bonne grande partie qui sont des voitures anciennes qui ont été fabriquées entre 1990 et 2010. Et c'est là qu'on a les voitures les plus durables, les plus performantes et les plus faciles à entretenir. Et celles-ci, évidemment, peuvent éventuellement être un peu plus polluantes que les voitures actuelles. Alors les voitures actuelles ont un défaut, c'est qu'elles sont excessivement fragiles, très compliquées, très techniques, bourrées d'intelligence artificielle et de gadgets en tout genre, et qu'alors qu'une voiture des années 90 faisait... Il est au téléphone ? Ah, bah alors voilà, je vais là. Alors, Laurent, vous êtes avec nous ?
Non, je reste un peu dans mon coin.
Mais oui.
Je passe mon temps à bosser.
Mais oui, très bien. Alors, on était en train d'expliquer aux auditeurs que les aides-feux avaient été supprimés grâce au député Pierre Meurin du Rassemblement National. Et vous aviez vous-même participé à cette campagne, largement. Et l'enjeu, on disait, pour les oligarques, c'est que d'une part, ils perdent un moyen d'humilier un peu plus le peuple, ce qui les rend malades, parce que ça, c'est idéologique, c'est ce qu'on appelle l'écologie punitive. Mais l'autre chose, c'est que ça porte atteinte à des intérêts de groupes de pression, parce que les voitures qui ont été fabriquées entre 1990 et 2010... Alors, vous m'entendez ou pas? Parce que j'entends...
...constitutionnel pour que ça ne soit pas annulé.
Alors, attendez... Alors, vous m'entendez parce que là, vous... Alors là, j'entends très mal, là.
Allô ?
Oui, je vous entends très mal, Laurent, parce que vous êtes en voiture, apparemment.
Allô ? Oui, bon, bah, on va... Ah non, mais il y a du vent derrière moi.
Vous avez du vent. Bon, alors, les ZFE ont été supprimées. Bon, elles ont été supprimées, et c'est à la grande fureur d'un certain nombre d'oligarques. Et il y a un recours devant le Conseil constitutionnel parce qu'on nous dit que c'est un cavalier législatif. Mais moi, je dis qu'une loi qui est un dispositif bureaucratique qui entrave la circulation dans les métropoles, qui empêche les artisans et les gens de travailler, c'est une entrave à la liberté économique. Et donc, moi, je trouve que la suppression des aides-feux n'est pas du tout un cavalier législatif, mais elle s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une loi qui vise à simplifier la vie économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez eu des contacts avec Pierre Meurin sur cette question?
Non. Parce que j'ai appris ça aujourd'hui, cette saisine du Conseil constitutionnel, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Honnêtement, j'en sais pas plus, hein, Olivier.
Pour le moment, vous ne savez rien. Alors, ce que je vous invite, comme vous connaissez Pierre Meurin, je vous invite à vous mettre en contact avec lui et à l'inviter à réagir très rapidement avec les associations d'automobilistes. Parce que l'objectif poursuivi, il est évident, c'est de mettre hors circuit une partie du parc automobile solide et accessible financièrement, pour obliger les gens soit à rester chez eux, soit à acheter des voitures excessivement chères et peu durables. C'est une évidence, sans compter les fabricants de radars qui se frottaient les mains parce que des marchés publics avaient été passés pour les fameux contrôles qui devaient avoir lieu sur tous les axes. Comment ?
Ce sont des lobbies.
Mais ce sont des lobbies, bien sûr. Mais la démocratie, c'est le règne des lobbies. C'est pas le règne du peuple. Donc voilà, alors je voulais faire cette petite mise au point pour nos auditeurs qui s'intéressent toujours à mes émissions sur l'automobile, en leur disant de ne pas se démobiliser et de suivre cette affaire de très près, parce qu'il ne faudrait pas que le Conseil constitutionnel nous plante le poignard dans le dos et que les aides-feux reviennent. Voilà. Eh bien écoutez, merci de votre intervention et de votre participation.
Oui,
et à une prochaine fois. Voilà.
Je pense que juste pour terminer, oui. À un an des présidentielles, je suis pas sûr que ce soit très judicieux que ces députés se lancent dans cette saisine du Conseil.
Alors ils l'ont fait, c'est déjà fait.
Ouais, mais ça risque de pas profiter aux gens que nous n'aimons pas beaucoup.
Ça c'est possible.
Voilà ce que je pense.
Ça c'est possible. Hein. Ils se tirent peut-être une balle dans le pied.
J'en ai un petit peu l'impression. Hein,
oui.
Olivier.
C'est possible. C'est peut-être une réaction de dépit. Enfin, il faudra que le Conseil constitutionnel ait l'intelligence de voir que c'est pas du tout un cavalier législatif. Il y a bien un lien de connexité entre la loi sur la simplification de la vie économique et l'abrogation de zones qui allaient complexifier considérablement l'activité économique. Il y a un lien manifeste.
J'ai transmis votre mail à Pierre Meurin. Déjà,
d'accord.
Que j'ai fait,
hein. Eh ben, très bien. Eh ben, qu'il n'hésite pas à m'appeler et on la fera venir. On l'invitera avec vous sur Radio Courtoisie, s'il veut.
On fait comme ça, Olivier.
Voilà, très bien. Allez, bonne soirée. À bientôt.
Au revoir.
Alors voilà, on a pris cet exemple de crise sacrificielle, parce que là l'automobile, les gens qui conduisent des voitures anciennes, d'abord, ces voitures sont peut-être anciennes, mais elles ont 15 ans, 10 ans. Elles sont déjà extrêmement propres par rapport à un diesel des années 60. Ça n'a aucun rapport.
Et le peuple est ruiné.
Et le peuple est ruiné, et les gens n'ont pas les moyens. Donc si vous dites aux gens, vous n'aurez plus le droit... Alors le gouvernement a même, dans une espèce d'amendement surprise, essayé de remettre les aides-feu en autorisant n'importe quelle collectivité territoriale à inscrire l'interdiction des voitures anciennes dans le ressort de sa commune. Mais vous vous rendez compte que tous les petits potentats locaux, écolos ou socialos se seraient jetés là-dessus pour pourrir la vie de leurs adversaires politiques. Enfin, c'est quelque chose, c'est on donne le droit, un droit de vie et de mort économique à un certain nombre d'élus qui vont l'utiliser à des fins électoralistes pour s'aménager les bonnes grâces de gens qui n'y connaissent absolument rien d'ailleurs, parce que la plupart des écologistes qui croient que l'homme détruit le climat, des gens qui n'ont même pas étudié la question, c'est comme un peu comme les gens qui voulaient, vous, en 2020, vous empêcher de tenir une conférence à l'épiscopat. Vous vous souvenez, c'était les antifas d'Orléans. Alors, j'ai regardé leur argumentation. C'est pas des gens qui disaient « Ah, oh, il va trop loin quand il parle de Calvin. Ah, oh, il dit pas assez de bien de certaines obédiences franc-maçonnes. Ah, il est un peu extrémiste sur certains côtés. » Non, Alain Pascal, ainsi que Durin, comme que vous aviez qui participé avec vous, ce sont des manifestations de la bête immonde. Alors, quand je vous vois, vous ne semblez pas être une manifestation de la bête immonde. C'est-à-dire, c'est Jean-Marie Le Pen qui disait « C'est terrible, je suis la bête immonde qui monte. » Rappelez-vous. Il avait dit ça. Alors, il n'y a aucun argument. Non. Aucun argument. Alors, c'est l'indigence intellectuelle.
Et le gouvernement actuel gouverne contre le peuple.
Ouais.
Donc, ce sont des ennemis du peuple.
Tout à fait.
Et il faut que le peuple le réalise. Il faut aussi que le mouvement national réalise, je rabâche, que la France a un passé religieux et qu'on ne peut pas se renier soi-même.
Ouais.
Et je pense que cette attaque contre le peuple, elle est encore pire, parce qu'elle peut provoquer, on va revenir quand même toujours à Girard, elle peut provoquer des violences, parce que tout dépend de qui détient la force publique. Si ce sont des ennemis du peuple qui continuent de détenir la force publique, et si ça s'aggrave, imaginons que l'extrême gauche rentre dans une coalition, alors sous un autre nom, une magouille quelconque.
Oui.
Alors, est-ce que M. Édouard Philippe est un adepte du diable ? J'ai entendu dire que son père était un adepte de Crowley. Crowley a fait partie aussi de cercles sataniques au début.
Ah oui, oui.
Ce sont des bruits qui courent, alors je ne les vérifie pas. Dans mes livres, c'est vérifié, mais là, je le dis simplement. La force publique, elle s'est retournée contre le peuple français.
À de nombreuses reprises.
À de nombreuses reprises, donc elle peut le refaire. Par contre, quand les gangsters attaquent les commissariats de police, la police a l'ordre de ne pas riposter.
Tout à fait juste.
Alors qu'il serait tout à fait normal que la police fasse usage de ses armes. Quand on est aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis, la police faisait usage de ses armes quand on lui tirait dessus.
Évidemment.
Et ça me semble quelque chose de normal dans une société normale. Alors il y aura des morts, on est d'accord. Parce que si on fait usage des armes, il y a des morts. Mais il faut savoir, est-ce que les morts, ça va être les braves gens, les enfants, ou est-ce que les morts, ce sont les gangsters, les assassins ? On est dans une société complètement inversée.
Ouais.
Les valeurs sont renversées. Et ça, c'est la suite de la Révolution. C'est un long processus, j'insiste
de
toujours,
décomposition.
De décomposition, d'inversion des valeurs. On prend le même mot, liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs chrétiennes, de source chrétienne.
Oui, c'est vrai.
Mais
elles
n'ont plus le fondement métaphysique. Et à partir de ce moment-là, elles s'inversent. C'est ce qu'on appelle des antivaleurs. Ce qu'avait écrit un philosophe gnostique, d'ailleurs, Berdaïev, un russe, qui avait participé à la révolution communiste, puis qui a été repenti, et qui est venu vivre ensuite en France et qui est mort en France. Il y avait des cercles. Bon, j'ai connu un certain nombre de personnes qui étaient dans ces cercles après. Et notamment, d'ailleurs, par exemple, un juif converti qui était Gabriel Marcel, qui a été l'adversaire de Sartre.
Oui.
Donc, si vous voulez, tout est possible dans le monde. Personne n'est damné définitivement. On peut toujours se convertir et lutter contre le mal. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Mais je pense que simplement les gens qui ont du bon sens devraient dire, oui, le christianisme, ça valait quand même mieux que ce que nous vivons aujourd'hui.
Alors, les gens, souvent, ne se rendent pas compte parce qu'ils sont obnubilés par les progrès techniques. Et il croit que ces progrès techniques sont liés au monde moderne. Alors, Harwell montre que les progrès techniques ne sont pas liés au monde moderne, qui les a simplement développés. Ils sont liés ab initio au christianisme. C'est-à-dire que les progrès que nous connaissons, et notamment les ordinateurs et l'intelligence artificielle, ce ne sont pas des choses qui sont arrivées comme ça, toutes cuites. Elles ont été le fruit de dizaines et de dizaines de siècles de travail. C'est pour ça que nous, on dit toujours que nous sommes des nains sur des épaules de géants. De gens qui avaient beaucoup moins de moyens que nous, sur le plan matériel, mais qui étaient sans doute beaucoup plus intelligents que nous. Parce que je rappelle que Archimède, avec les moyens de son temps, a, dit-on, mis le feu à la flotte romaine avec des miroirs paraboliques, avec ses simples calculs. J'aimerais bien aujourd'hui que quelqu'un en fasse autant. Donc on avait des capacités très grandes, mais on avait peu de moyens. Aujourd'hui, on a des moyens énormes qui sont hérités de la révolution économique qui a permis le christianisme, mais nous avons un homme qui est en régression. Alors moi, je m'inquiète beaucoup pour l'intelligence artificielle. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez du développement fulgurant de l'intelligence artificielle ?
Il est très dangereux, puisque évidemment. Déjà, le langage moderne est artificiel, puisque le mot ne correspond plus au concept.
Plus toujours. On peut encore lutter pour rétablir le sens des mots.
Oui,
mais souvent, déjà, il est dénaturé. Très souvent, il est dénaturé.
Parce qu'il a été inversé.
Il a été inversé.
Par le langage chrétien est inversé par les ennemis du sionisme.
Le démoniaque est devenu un compliment. Si on vous dit que vous êtes d'une intelligence démoniaque, c'est mieux que si on dit que vous êtes un saint.
La science doit être placée au service du bien. Donc le bien commun, c'est la doctrine chrétienne pour le politique. Pourquoi pas une respublica, une république, mais pas une république des Lumières, pas une république maçonnique, une république dont la religion d'État serait le christianisme. Les autres religions étant tolérées, et chacun peut avoir la croyance qu'il veut. Et n'oublions pas que nous avons un héritage. Vous avez parlé du travail de génération et de génération. La France a un héritage. Et c'est la patrie des pères.
Bien sûr,
Et nous renions nos pères. Comment voulez-vous que des immigrés s'intègrent si nous nous renions nous-mêmes ?
Évidemment.
Donc il faut être fier de notre passé, mais il faut le rétablir.
Si nous leur disons tous les jours que nous sommes coupables des pires crimes de l'humanité,
ce qui est faux,
et que, ce qui est complètement faux, et quand on allait dire que la colonisation de l'Algérie, ça a été un crime contre l'humanité, mais la colonisation, elle a été moins cruelle que la colonisation romaine en Gaule. César a été nettement plus cruel que Lyautey.
Il y a aussi, on ne va quand même pas éluder la question qui est la question de l'islam, je suis désolé de la poser.
Bien sûr, non, vous avez raison.
J'ai parlé tout à l'heure du judaïsme et du christianisme, donc il n'y avait pas de judéo-christianisme. Et en théologie, et j'écris ça dans plusieurs de mes livres, l'islam n'est pas la troisième religion de la Bible, parce qu'elle ignore totalement le christianisme. L'islam a une ignorance. Alors l'islam a une...
Ah, pourtant, Jésus est considéré comme un prophète chez eux.
Oui, mais oui, mais c'est parce qu'il y avait des tribus arabes qui étaient chrétiennes. Il y a eu une christianisation de l'Orient. Ils ont gardé sur les pierres gravées les noms de Jésus et de Marie, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais si vous voulez, rien que cette symbolique, l'islam est une religion cosmique. Il y a dans l'islam, il y a une partie biblique, mais elle vient du Talmud, d'une façon générale. Vous avez au VIe siècle un livre qui s'appelle le livre de la création. Alors, il y a divers noms. Il y a des gens qui m'ont dit, ça ne s'appelle pas comme ça. Ce qu'il y a dans le livre, c'est important. Et ce livre aboutit, on le retrouve dans le Coran, qui n'est pas écrit par Mahomet.
Mais, alors qui a écrit le Coran avant
C'est après. Ça a été établi par divers historiens que je cite. Ce que je veux dire, c'est que dans cette religion cosmique, il y a la Kaaba. La Kaaba, c'est une pierre qui tombe du ciel. C'est une vieille croyance aux météorites. Et qu'il y a un certain nombre de rites islamiques, comme par exemple jeter les cailloux, qui correspondent à des rituels sacrificiels. Et puis je vais prendre un dernier exemple, c'est que dans les sociétés antiques, vous aviez donc les sacrifices humains pratiqués au culte de la lune, il y avait la terre-mère et la lune. Il y avait aussi le soleil qui était en Égypte et qui est évidemment aussi sacrifié à les humains. Les Égyptiens sont des monstres, il faut appeler les choses par leur nom. L'Égypte, c'est tous les jours. Vous regardez la télévision, vous avez des heures et des heures d'émission, c'est Hitler qui arrive, et puis vous avez le lendemain, c'est l'Égypte. Il y a des chaînes qui font ça. Le symbole de donc la lune, au nom des cultes de la lune, on sacrifiait des humains. Le symbole de l'islam, c'est le croissant de lune.
Tout à fait juste,
Et je vais ajouter autre chose. Dans les rituels maçonniques, puisqu'on en a parlé, dans le fameux, pas uniquement le rite écossais, vous avez les deux colonnes du temple. Et il y a une colonne, la colonne de droite, elle est surmontée par le soleil. Et la colonne de gauche, elle est surmontée par la lune. La lune, la gauche, est lunaire. Donc la lune, la gauche, les socialismes, tous les socialismes, socialisme, communisme, national-socialisme, capital-socialisme, ont des rites sacrificiels, sacrifient les humains, et ils ont sacrifié 200 millions au XXe siècle, et ça va continuer, parce qu'ils vénèrent la Lune en secret. Donc il faut faire émerger dans la conscience des gens les croyances secrètes, des sociétés secrètes qui nous dirigent, pour qu'ils prennent conscience de la menace qui pèse sur eux.
Tout à fait, mais les gens commencent à prendre confusément conscience quand ils voient la faillite de ce qu'on pourrait appeler le monde moderne. La faillite. Alors justement, puisque René Guénon a écrit aussi La crise du monde moderne, que pensez-vous de René Guénon ?
Alors, ça va être difficile, mais d'abord c'est un livre extraordinaire. Je suis devenu anti-moderne, en partie par la lecture de ce livre. Après, je suis devenu sur un plan catholique, parce que Guénon n'est pas du tout catholique.
Non, il est devenu musulman, d'ailleurs, à la fin de sa vie.
Voilà, il s'est converti. Il est devenu soufiste. Et ça, c'est un immense, comment on peut dire,
c'est un obstacle. C'est un mathématicien,
Il y a une forme de génie des Guénoniens, mais c'est aussi diabolique. Guénon est diabolique, malheureusement. Il a une immense influence encore sur la droite néo-païenne. Mais ils oublient que Guénon s'est converti à l'islam. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que je crois ensuite qu'il a été agent secret aussi de l'Angleterre quand il était en Turquie. Alors, j'ai un ami qui doit écrire un livre, je ne sais pas s'il entend, sur Guénon, qui était longtemps aux amis d'Alain Pascal, qui était pastanais. Je ne le citerai pas pour ne pas le compromettre, mais lui, il s'y reconnaîtra s'il écoute l'émission. Et j'espère que son livre sortira, parce qu'on saura tout. Guénon, c'est quand même, c'est le feu. C'est un homme très séduisant, mais c'est l'ésotérisme. Il y a un phénomène aussi dont j'ai pris conscience avec Guénon, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. Vous avez deux traditions primordiales possibles. Soit c'est Adam, c'est la tradition adamique, donc là on est dans la Bible, et sinon c'est une tradition primordiale ésotérique qui est fictive. Mais et notamment ce qu'elle serait l'hermétisme. Alors, je ne sais pas combien de temps je peux expliquer ça. Mais,
non, parce que là il reste plus que 5 minutes.
Très brièvement, la déclaration des droits de l'homme remonte à la croyance dans une tradition primordiale hermétique, qui n'est pas la tradition primordiale, et ça c'est historique. L'hermétisme, il est composé, alors Hermès est très ancien, il n'est d'ailleurs pas du tout grec mais égyptien, et elle est composée après le Christ, et pour lui unir, les sociétés secrètes hermétiques sont
gnostiques. Alors hermétique, ça vient d'Hermès.
Mais c'est un personnage mythique.
Oui, bien sûr.
Et qui n'est pas grec, il est intrus en Grèce. Alors, j'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle L'intelligence du christianisme.
Hermès était le dieu des voleurs, d'ailleurs, et des voyageurs.
Donc, voilà, il y a plusieurs symboliques.
Ouais, c'est ça.
Et il fait partie des dieux qui ont, comment on peut dire, perverti les mystères, notamment à cause des mystères de Delphes, à cause des mystères d'Éleusis. Alors, j'ai expliqué tout ça, j'ai un livre entier sur les civilisations païennes. Ça s'appelle L'intelligence du christianisme, c'est le premier tome. Voilà. Ça s'appelle L'humanité en quête de Dieu et comment les démons ont détourné. Donc, Guénon, lui, il est partisan d'une tradition. C'est très important parce que si toutes les religions venaient d'un ésotérisme primordial, on les rassemblerait, on rassemblerait le monde dans un ésotérisme primordial. Je ne sais pas si je vais pas être.
Non, mais là, de toute façon,
il faudrait. C'est le mondialisme. C'est ce qui sous-tend le culte mondialiste. Je l'explique plus longuement dans certains de mes livres.
Mais en tout cas, il est vrai qu'aujourd'hui, les périls indirects pour la France, c'est l'immigration et la dette. Mais le péril indirect, c'est l'abrutissement généralisé. Parce que hier, notre assistant, Marc de Staël, nous disait, dans 5 ans, il risque de ne même plus y avoir de thèse de doctorat. Parce qu'on va pouvoir appuyer sur un bouton pour avoir tout de suite la réponse. On peut obtenir en 15 secondes l'équivalent d'un ouvrage qui aurait mis 15 mois à être élaboré. Donc il y a un danger de régression de l'homme, qui l'homme acquiert des moyens qu'il n'a jamais eu dans l'histoire, mais ces moyens peuvent aussi bien le détruire que lui permettre de progresser encore plus. Et il y a à chaque fois, c'est à double tranchant. Parce que là, l'intelligence artificielle, elle a progressé depuis l'introduction de ChatGPT. Rappelez-vous, c'était en 2021, je crois, 2022, il me semble. Au début, bon, on disait « Oh oui, mais ça va pas vraiment bien marcher ». Et là, on a testé, ça marche vraiment bien. Alors, ça marche vraiment bien, sauf pour un vrai spécialiste. Moi, quand j'utilise l'intelligence artificielle, je vois là où elle se trompe. Je vois là où elle invente des arrêts qui n'existent pas. Je vois qu'elle fait n'importe quoi.
Ou des titres d'émission.
Exactement. Mais pour le profane, c'est parce qu'il y a une apparence de scientificité. Il y a une apparence de culture.
C'est un mirage.
C'est un mirage.
C'est un mirage. Et ce n'est pas une réalité, c'est un mirage. Et il ne faut pas oublier le mot artificiel. et ça risque d'être anti-humain.
Évidemment.
Elle va être retournée contre
et
l'humain.
Et puis alors, celui qui va détenir...
Je ne suis pas contre le progrès technique,
mais
il faut le maîtriser.
Mais celui
il faut le
qui
soumettre
sera,
aux valeurs.
Et celui qui aura la clé de l'intelligence artificielle sera le maître du monde.
D'ailleurs, nous risquons d'être colonisés, d'être pris par le numérique... Puisque on peut une guerre peut-être numérique.
Mais bien sûr.
Nos comptes en banque, ils vont peut-être partir quelque part.
Mais parce que c'est purement virtuel tout ça.
Bien sûr.
Votre argent, tant qu'il n'est pas dans des actifs tangibles comme l'or, la pierre ou même des objets de collection, après tout, n'importe qui peut vous le prendre. C'est pourquoi les crypto-monnaies, je n'ai aucune confiance.
Moi, je suis très angoissé par l'informatique. Alors.
Moi, je suis
comme
vous.
Et je ne le supporte pas dans les voitures quand on vous dit fermez votre porte.
C'est
insupportable.
C'est pour ça que nous aimons tellement les vieilles voitures, c'est que tout est simple. Voilà. Et tout est intuitif, comme on dit. Il y a un bouton, on le tourne, ça marche. Voilà. Quand ça devient un système intelligent, alors là, la machine commence à prendre le dessus, et puis on n'en peut plus, et on ne sait plus comment ça marche à la fin. On ne sait plus. Bon, écoutez,
ma conclusion toujours la même.
Oui, allez-y, je vous laisse conclure.
C'est très simple, nous sommes des croisés.
Oui, nous luttons contre le déclin de la civilisation chrétienne.
Des croisés pour le Christ, et donc pour la civilisation. Et donc pour le bonheur des gens.
Ouais.
Ils seront heureux avec le christianisme, alors que la vie moderne est absurde et qu'ils seront malheureux,
alors,
elle n'aura plus aucun sens.
Un jour, je ne sais plus à quelle occasion c'était, mais une femme, un écrivain s'était converti au christianisme, et on lui dit, mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi est-ce que vous êtes converti au christianisme alors que vous étiez lectrice de Sartre, de Simone de Beauvoir? Et elle a dit, tout simplement... Parce que j'ai vu l'absurde de la culture moderne, et entre l'absurde et le mystère, finalement, j'ai choisi le mystère.
Le mystère est révélé, maintenant.
On
peut accéder à l'intelligence du christianisme.
Mais enfin, quand même. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais c'est tout à fait juste. L'absurde, c'est une voie sans issue.
C'est au-delà de notre raison, mais il y a quand même une rationalité.
Oui, parce que bien sûr, mais nous n'avons pas encore les capacités à le comprendre, parce que ça fait appel à des connaissances que nous n'avons pas. Écoutez, chers auditeurs, merci infiniment de votre écoute. Merci, cher Alain Pascal. Je vous invite à lire les livres d'Alain Pascal et d'aller sur Internet pour voir les différents titres qui vous sont offerts. Et nous espérons que nous aurons l'occasion de le revoir à nouveau dans d'autres émissions, peut-être avec Jean-Louis Harwell, justement, à l'occasion de la sortie prochaine du livre de Jean-Louis Harwell. Merci, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal du droit et des libertés dirigé par Olivier Tournafond, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 29 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.